Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Alors nous allons continuer sur la vie d'Abraham. Et je vous rappelle qu'Abraham, c'est l'homme qui a reçu la plus grande promesse qu'aucun terrien, un homme comme vous et moi, un être humain comme vous et moi, et c'est l'homme qui a reçu la plus grande des promesses de la part de Dieu. Au travers de lui, il y a eu des nations qui sont sorties. Et nous sommes au bénéfice de l'héritage d'Abraham, nous-mêmes l'Église. Et nous sommes en train d'étudier la vie de cet homme parce que, franchement, il y a beaucoup de leçons sur la destinée. Et je vous rappelle, l'Ancien Testament nous aide beaucoup dans les caractères des personnages. Les promesses que nous avons dans le Nouveau Testament sont beaucoup plus importantes que dans l'Ancien. Mais dans l'Ancien Testament, ce qui est bien, c'est que nous avons la vie des personnages. Comment ils ont essayé de marcher avec Dieu, comment ils ont réussi, comment aussi ils ont chuté. Comment certains ont récupéré leurs erreurs, comment ils ont eu différentes révélations de Dieu, comment Dieu leur a donné des destinées. Certains les ont très bien accomplis, d'autres ça a été une catastrophe. Donc je vous dis et je vous le rappelle, l'Ancien Testament, méditez-le sur les personnages et l'histoire des personnages. Ceci vous aidera à vous asseoir et à regarder devant vous. Parce que souvent les chrétiens foncent dans tout et n'importe quoi et ils ruinent beaucoup de choses, ce que Dieu a prévu pour eux. Alors je vous rappelle, on avait commencé au chapitre 12, c'est le début vraiment de l'histoire d'Abraham. Donc Dieu lui dit de partir et de laisser tout derrière lui, et souvent c'est ce que le Seigneur va nous demander, de laisser notre vie, notre vieille vie derrière nous. Mais tout ce qu'on abandonne, quand Dieu nous le demande, il y aura toujours quelque chose de meilleur. Et peut-être que ce soir tu es là et effectivement tu as donné ta vie à Jésus depuis peu de temps, et pour l'instant le meilleur de Dieu tu ne le vois pas du tout. Il t'a sauvé, mais tu ne réalises pas qu'est-ce qu'il a fait en toi. Mais
tu
as encore du mal, il y a plein de défis dans ta vie, il y a plein de choses qui d'un seul coup font comme ça, descendent. C'est tout à fait normal, tu laisses quelque chose de pourri, tu as laissé quelque chose de pourri, ta vieille vie de pécheur. Et maintenant, il va falloir que tu comprennes comment fonctionne le royaume de Dieu. Dieu a le meilleur pour nous,
mais
il va falloir que nous apprenions à marcher dans son meilleur. Et je vous rappelle que c'est une association entre Dieu et nous. C'est pas Dieu qui va d'un seul coup dire voilà, tu vas être ceci et demain tu le seras. Ça c'est pas de la prophétie, c'est de l'illusion.
Et
nous allons bien l'étudier d'ailleurs au travers de la vie d'Abraham. Donc Dieu va lui dire que je ferai de toi une grande nation, etc. Il va lui donner des promesses qu'il sera une source de bénédiction. Et nous avons vu que pour être une source de bénédiction, il faut d'abord être béni. Et il y a trois domaines particuliers où nous pouvons être une source de bénédiction. Numéro un, c'est dans la connaissance de Dieu. Numéro deux, c'est dans les relations, les bonnes relations que nous pouvons être vis-à-vis des autres. Et numéro trois, c'est dans les finances. Alors, On a vu aussi que Dieu lui dit, s'il y a quelqu'un qui te touche, qui te maudit, il sera maudit. Ensuite, Abraham part à 75 ans. Nous avons vu qu'il n'y a pas d'âge trop tard pour commencer. Moïse a commencé à 80. Donc vous êtes tous qualifiés pour même démarrer aujourd'hui. Il
n'y
a pas d'âge trop tard pour commencer. L'important, c'est de bien se positionner dans le Seigneur. Ensuite, donc, on a vu, Dieu va se révéler une deuxième fois, une fois qu'il a obéi. Et je vous ai montré que ça, c'est une clé. Une clé importante que Abraham a utilisée, c'est l'obéissance par la foi. Si Dieu se révèle une première fois à toi et te dit, voilà, je veux faire ça et ça avec toi, ne commence pas à penser que demain ça va se réaliser et que ça se réalisera tout seul. Tu commences le chemin de ta destinée. Et ce chemin de la destinée, ça va être des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. En fait, ça va durer toute ta vie. Donc, plutôt tu comprends les principes divins, plutôt tu travailles ton caractère, plus rapidement tu verras ta destinée s'accomplir. Donc il va obéir dans la foi. Et qu'est-ce qui va se produire?
Eh
bien, Dieu va se révéler à nouveau à lui. On a vu ensuite qu'il y a une autre clé, c'est l'adoration. Dieu va commencer à lui révéler des grandes choses, mais des grandes lignes. Et Abraham est un adorateur, tout de suite il adore. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Je vous ai montré que l'adoration est une clé gigantesque si vous voulez écouter la voix de Dieu. Nous avons vu que dans l'adoration, il y a la révélation. Il y a la protection. Il y a la direction. Et nous avons vu aussi que l'adoration nous amène à être influencés et à normalement faire des bons choix. Ensuite, Abraham va faire sa première erreur. Nous le savons, la moitié du chapitre 12. Personne qui a réussi avec Dieu était quelqu'un de parfait. Tout le monde a fait ses erreurs. Et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Par contre, c'est la gestion de votre erreur qui va être importante. Et là, Abraham fait une bêtise. Il s'en va de son territoire de destinée. Parce qu'il y a des pressions. Et quand Dieu te parle, il y aura des pressions, les circonstances iront contre toi. Et on a vu qu'il y a deux réactions quand il y a des pressions alors que Dieu nous a dit certaines choses. Souvent, les gens fuient. S'écartent de leur territoire de destinée. C'est ce qu'Abraham a fait. D'autres se découragent et ils sont tellement découragés parce qu'ils ne voient rien avancer dans leur vie par rapport à ce que Dieu leur a dit
qu'au
bout d'un moment ils abandonnent l'appel divin. Ensuite on voit que Dieu, que Abraham revient donc au point de départ. Il a tourné en rond comme beaucoup de gens et on a cette histoire de la séparation entre lui et Lot. Et on a vu le cœur d'Abraham. Abraham était un homme de paix. Vous ne pourrez jamais réussir votre destinée si vous n'êtes pas quelqu'un de paix. Si vous mettez toujours les querelles partout, le désordre partout où vous passez, que vous êtes en train constamment de parler sur les autres, de dire du n'importe quoi, de vous occuper des futilités, vous ne réussirez pas votre destinée. Il faut apprendre à être quelqu'un de paix dans la mesure où ça dépend de vous. Et Abraham a vu qu'avec Lot ça ne pouvait pas continuer. Lot ne s'imaginait pas que toute la richesse et la prospérité dont il bénéficiait, eh bien c'était le fruit ni plus ni moins de l'onction qu'il y avait sur l'homme de Dieu dans lequel, duquel il était très proche. Et Abraham a été fair play, il lui a dit, si tu vas à gauche, je vais à droite, si tu vas au nord, je vais au sud.
Abraham
n'était pas un opportuniste. Les opportunistes, nous l'avons vu, ont des problèmes. Lot était un opportuniste. Lot a regardé les plaines, les jolies plaines où il pouvait s'occuper de ses brebis, il avait de l'eau et il avait des plantations. Mais Abraham a dit, c'est pas grave, fais ce que tu veux, va où tu veux. Lot était un opportuniste. Et nous avons vu que les opportunistes souvent terminent très mal. Nous avons vu qu'ils cachent leur choix jusqu'à la dernière minute. Parce qu'ils essayent de voir sur chaque côté, sur tous les tableaux, où est-ce qu'ils peuvent gagner le plus tout de suite. C'est les gens qui ne voient pas le futur. Ce sont souvent des rétrogrades. Et très souvent, ils font naufrage. Et c'est pourquoi ces gens-là souvent se séparent. Et ils vont vers des endroits où prennent des décisions qu'ils vont payer des années plus tard. Donc on a vu, Abraham était quelqu'un de paix. Lorsque Lot va partir, Dieu va se révéler une troisième fois. C'est la fin du chapitre 13. Et puis ce qui va se passer ici, c'est que le Seigneur commence à lui donner beaucoup plus de précision sur sa destinée. Et je vous ai dit, ne faites jamais l'erreur classique. Quand le Seigneur vous a parlé sur des grandes lignes, de vouloir faire des jeûnes et des prières et des jeûnes et des prières et demander à Dieu toutes les précisions sur ce qu'il veut faire avec vous. Dieu ne vous donnera pas toutes les précisions sur votre destinée tout de suite. Il vous donne les grandes lignes et il attend l'obéissance et le caractère. Ensuite, il va à nouveau se révéler à vous. Et vous donnera des précisions. Mais je vous rappelle, les révélations ne se cherchent pas. Quand les gens cherchent des révélations à droite et à gauche, ils s'ouvrent souvent à des esprits familiers, sataniques. Et croyez-moi, c'est une très belle opportunité pour le diable pour détruire la destinée des gens. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai vu des gens comme ça bien fonctionner avec le Seigneur au départ, recevoir des choses réelles sur leur destinée, mais vouloir précipiter leur destinée en cherchant des révélations, en passant des heures et des heures et des jours et des semaines à faire des jeûnes et prières prolongées pour essayer de tout recevoir de la part de Dieu. Et d'un seul coup, ces gens se sont fait séduire et vous les regardez des années plus tard, ils sont dans des fausses doctrines, ils sont dans des fausses révélations, ils sont dans des choses qui sont, c'est tout un monde spirituel complètement imaginaire, en tout cas qui n'est pas divin du tout. Mes frères et sœurs, faites extrêmement attention à cela. Des gens qui cherchent vraiment avec ardeur à vouloir tout connaître sur leur destinée souvent se retrouvent à chercher des révélations. Ici, c'est Dieu qui vient vers Abraham. Nulle part vous voyez Abraham en train de chercher Dieu pendant des jours et des semaines pour qu'il se révèle à lui qu'il ait une vision. Toutes les révélations qui vont se produire dans la vie d'Abraham sont le fruit de la souveraineté de Dieu. Donc faites extrêmement attention à cela. Respectez, c'est une loi spirituelle. Donc Dieu se révèle à nouveau et là il lui dit, voilà, c'est là, c'est le pays, voilà, c'est ce pays-là, là où tu es. Au début, il lui disait, je vais te faire de toi une grande nation, etc. Il lui donnait des choses générales. Pars dans l'endroit où je te montrerai. Abraham obéit. Et là, vous voyez, la troisième révélation, c'est, voilà ce pays. Et là, Dieu lui dit une chose importante. Il lui dit, explore. Explore. là, je vous ai dit, c'est quelque chose de très important. Lorsque le Seigneur se révèle à vous sur quelque chose de plus précis, passez du temps à rêver. Vous avez une capacité surnaturelle de rêver les rêves de Dieu. Et c'est très important de s'asseoir et de rêver. C'est ce qui alimentera votre vie concernant votre destinée. Ensuite, nous avons vu à la fin du chapitre 13 Abraham va habiter du côté des chaînes de Mamré et d'Hébron, à côté d'Hébron. Et là, l'idée, c'est vraiment, on a vu ces deux mots-là, hein, il y en a un qui veut dire prospérité, vigueur, et l'autre communion. Et là, on a vu que vraiment l'idée, c'est le temps où on doit apprendre à se fortifier. Vous savez, vous ne pourrez pas accomplir de grandes choses avec le Seigneur si vous n'avez pas passé des années à vous fortifier dans le Seigneur. Et ça se produit jour après jour. Il y a trop de gens qui veulent que beaucoup de choses se produisent rapidement dans leur vie, mais ils ne sont pas capables de les porter. Et ça, c'est une erreur que l'on voit. Dieu ne peut pas te confier de grandes choses s'il sait que tu vas craquer à la première petite chose qu'il va te confier. La force spirituelle, la communion dans le Seigneur, ça c'est quelque chose que tu dois travailler tous les jours. Tu peux avoir de grandes promesses si tu n'es pas quelqu'un qui sait te fortifier dans le Seigneur, si tu n'es pas quelqu'un qui a de plus en plus renforcer ta communion avec lui. Eh bien, je vais te dire une chose. Dieu ne pourra pas accomplir grand chose avec toi. De grandes choses. Pourquoi? Parce que tu seras faible. Et que ta communion, ça sera seulement: Seigneur, je te prie pour moi, moi, moi et moi. Non, ce n'est pas ça la vraie communion avec Dieu. Alors ensuite, nous avons vu qu'au chapitre 14, il va y avoir donc Lot qui va se faire enlever par un certain nombre de rois qui étaient venus faire la guerre dans le coin à Sodome. Et on a vu qu'il va se passer certains événements, d'ailleurs des événements très historiques. Et nous avons vu que ces peuples-là, ces rois, ils venaient jusque d'Iran, d'ailleurs, Kedor Laomer, qui est le roi principal qui est mentionné ici. Venait effectivement d'Iran. Donc vraiment dans le golfe Persique, très loin, à plusieurs milliers de kilomètres où Abraham était. Bref, il y a des rois qui vont se faire la guerre. Lot et sa famille va être enlevée. Et Abraham va être obligé d'envoyer plusieurs centaines de ses serviteurs pour aller récupérer Lot et tout le butin. Et puis il revient vainqueur. Et là, il se présente à un homme qui s'appelle Melchisedec et qui nous apprend beaucoup de choses sur ces temps d'Abraham. Et nous avons vu, la dernière fois, nous avons étudié la vie de Melchisedec et l'image de Melchisedec, bien sûr, ce qu'il représentait. Je vous rappelle que son nom veut dire roi de justice. Et en fait, il va être une image de Christ. Et on sait qu'on l'a étudié la dernière fois dans l'Épître aux Hébreux, où il y a cette comparaison entre le sacerdoce selon Aaron et le sacerdoce selon Melchisedec. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux particulièrement prend l'exemple de Melchisedec, qui, je vous le rappelle, est mentionné dans un psaume aussi. prend vraiment Jésus en disant tu seras sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et on a vu que ce Melchisédek, il apparaît comme ça, sans généalogie. Image de Jésus, qui n'est pas, je dirais, il est né, c'est vrai, selon la chair, mais il a toujours existé. Il n'a pas de commencement ni de fin. Et on voit que l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend des exemples sur Melchisédek pour les appliquer à Christ. Et que le sacerdoce d'Aaron, c'est-à-dire la façon de servir Dieu selon Aaron, c'était d'abord Aaron était pêcheur, ses descendants aussi, c'était un sacerdoce qui était aussi transmissible. Et ils étaient mortels. Alors Melchisédek ne vient de nulle part, on ne sait pas quand est-ce qu'il a fini sa vie.
La Bible prend
son exemple
et
dit que c'est une image de Christ, ni plus ni moins. On avait étudié ça la dernière fois. Alors on voit aussi qu'Abraham donne la dîme de tout à ce sacrificateur. On apprend qu'à cette époque-là, il y a des sacrificateurs. On sait aussi qu'Abraham était prophète. Donc nous apprenons des choses sur le ministère avant la loi de Moïse. Bon, ensuite, Abraham va lui donner la dîme de tout et nous avons vu que là, c'est la première mention de la dîme. Et ce qui va se passer, c'est qu'on s'est posé la question, comment est-ce qu'Abraham a su cela ? Est-ce que d'un seul coup Abraham invente la dîme et Dieu va reprendre cette idée géniale d'Abraham pour en faire quelque chose dans la loi? Qui pourrait apprendre quelque chose à Dieu? Bon, et on voit bien qu'il y a quelque chose que Abraham savait à propos de la dîme. Et c'est là où nous avons remarqué que la dîme est une loi spirituelle. Comme nous avons vu que les descendants d'Adam et Ève, même Adam et Ève, quand ils ont péché, devaient ni plus ni moins s'approcher de Dieu, au travers de quoi ? Un sacrifice. Ce sont des lois spirituelles. Alors on va juste reprendre le verset 21 jusqu'au verset 24. Et là aussi, je vais vous montrer une caractéristique d'Abraham qui est très importante. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi toutes les personnes et prends pour toi toutes les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner et Skol, Mamré, et ils prendront leur part. Ici, on voit une caractéristique de cet homme de Dieu. C'est sa relation avec l'argent. On voit clairement que Abraham n'est pas quelqu'un qui convoite. Rappelez-vous, il va envoyer 300 de ses soldats. Je vous rappelle qu'il avait des bandes, je veux dire, il y avait une sécurité obligatoire à cette époque-là. Je vous rappelle qu'il vivait sous des tentes. Et c'était, Abraham avait quitté une ville, une des rares villes de l'époque. Il vivait sous des tentes et il y avait plein d'animaux. Il y avait des richesses. Donc évidemment, les pillards, les bandits, ça les intéressait sérieusement, ce genre de choses. Donc ils étaient obligés d'avoir des gardes personnels, des centaines de personnes qui veillaient la nuit et qui étaient capables, si jamais on venait les attaquer le campement pendant la nuit ou le jour, de pouvoir se défendre. Rappelez-vous, à l'époque, il n'y avait pas de pays. C'était juste des gens qui vivaient dans différents territoires. Et Abraham vivait dans un territoire étranger.
C'est-à-dire,
il n'était pas du coin, et on le savait très bien. Donc Abraham avait pris beaucoup de risques, il avait envoyé 300 de ses hommes, qui étaient vraiment revenus vainqueurs. Il avait dépensé de l'argent, parce que ça coûte cher de faire ce genre de truc. Mais cet homme de Dieu savait une chose. C'est qu'il était prudent dans ses relations concernant l'argent. Il savait très bien ce qui se passait à Sodome et
Gomorrhe.
Les pires abominations devant le Seigneur. Et il le savait très bien. C'était connu. Nous verrons que Lot s'est fait avoir par sa convoitise. Mais Abraham a refusé une chose. Que ce roi de Sodome vienne lui donner quelque chose. Vous savez, il y a parfois des présents qu'il faut savoir ne pas recevoir. Pourquoi ? Parce que quand vous recevez quelque chose de quelqu'un, quelque part ça vous lie avec cette personne.
Amen.
Amen. Mm-hmm. Il y a des choses qu'il faut savoir ne pas recevoir en tant que chrétien. Parce que parfois il y a des présents qu'on peut nous faire qui ne sont pas forcément gratuits. Il y a des choses parfois que des gens veulent te donner pour créer une sorte d'attachement. Ou pour qu'un jour, il puisse te demander un service. Mais un service qui te compromettra. Et que tu seras quelque part obligé de rendre. Parce que des années plus tôt, cette personne aura fait quelque chose pour toi. Qui t'aura plus que largement dépanné. Et il y a des choses qu'il faut savoir refuser. C'est vrai que parfois, c'est très simple, vous savez, parfois les jeunes filles doivent savoir refuser certains présents de certains garçons. Méfie-toi, tu sais, quand un garçon te fait un présent, ma sœur, réfléchis bien avant de l'accepter. Parce que lui, il ne voit pas l'argent qu'il a dépensé. Il voit plus loin comme Lot. Non, mais sérieusement, il y a des choses parfois qu'il faut savoir refuser. Il faut faire attention, vous savez, souvent. Et vous savez, ici, je l'ai remarqué à plusieurs reprises. Faites attention parce que quand quelqu'un vous donne quelque chose, ce n'est pas gratuit la plupart du temps. La plupart du temps, quelques années ou quelques mois ou quelques semaines plus tard, tu vas te sentir redevable quelque part. Et parfois, l'ennemi peut te tendre un piège par rapport à ça. Parce que ça peut créer une certaine dépendance. Et il y a des choses parfois qu'il faut savoir refuser. Directement. Je vous assure, parfois, ça peut nous sauver de gros problèmes futurs. Tu peux refaire, je vais faire des annonces en attendant. Et vraiment, il y a des choses, vous savez, parfois dans la vie où il faut savoir dire non. Et particulièrement si des gens insistent. Ayez un minimum de discernement par rapport à ça. Parce que je vous garantis, un jour tu retrouveras cette personne à l'endroit où tu ne voudras pas la trouver. À un moment où tu seras coincé. Et là, il faudra que tu payes ce cadeau de multiples fois. que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous voyez, Abraham était très sage. Il a dit, non, je ne veux rien de ta part. Parce que, vous savez, dans Sodome, on faisait des abominations. Il y avait des horreurs. Il ne voulait aucune relation avec cet homme. Aucun rapprochement avec cet homme. Il n'a pas été aller récupérer les gens de Sodome et aller récupérer les biens pour le roi de Sodome. C'était pour Lot. Mais il a fait d'une pierre deux coups, comme on dit si bien.
Directement,
il a tout récupéré en même temps. Pour être tranquille, parce que sinon ces rois pouvaient peut-être encore revenir et se bagarrer. Donc il valait mieux en terminer une bonne fois pour toutes. Mais ce n'est pas pour le roi de Sodome qu'il a fait ça. C'est pour Lot. Et si vous voulez réussir votre destinée, frères et sœurs, il y a des choses que vous n'acceptez pas. Des choses qu'on même pourrait vous donner qu'il ne faut jamais accepter. Parfois, c'est même des trucs qui ne sont pas clairs du tout. Mais tu ne le sais pas. Quand ton cœur commence à te dire certaines choses, fais attention. Tu laisses et t'en fais pas. Le Seigneur te donnera largement plus ailleurs. Mais Abraham ne voulait pas être béni par un homme qui servait Satan jusqu'au bout. Et nous verrons dans Sodome et Gomorrhe ce qu'il y avait. Et il y a bien plus que simplement l'homosexualité qu'il y avait. Donc cet homme savait clairement discerner où il fallait s'arrêter pour recevoir des choses des autres. Parce qu'en fait, Abraham avait ressenti qu'il voulait se servir de lui. Vous voyez qu'il dit, pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. En d'autres termes, que tu ne puisses pas utiliser cet acte posé en ta faveur pour faire croire qu'Abraham est ton ami.
Vous
savez, il y a des gens qui sont comme ça. Ils font quelque chose envers vous en vue de récupérer peut-être votre réputation. Et là, c'est ce que ce roi, en tout cas, c'est ce qu'Abraham avait ressenti chez ce roi. Il a dit, tu ne m'auras pas comme ça. Ce n'est pas ton argent qui m'intéresse. Prends ta route, prends ce que tu veux, moi, je prends mon chemin aussi.
Vous
savez, il y a des gens, ils vont mieux pas s'en approcher. Parce qu'ils vont vous créer plus de problèmes. Vous savez, dans la vie, il faut être gentil, mais pas bête. Pas être non plus des gens qui sont ce qu'on appelle niais, c'est-à-dire des gens qui sont naïfs. Il y a des fois des choses où tu dois mettre des barrières très claires et les gens savent, tu ne t'approches pas à moins de 5 km. Vous savez,
c'est pas
un manque d'amour, c'est qu'on doit apprendre à se protéger aussi. Il y a parfois des personnes avec lesquelles vous devez mettre une distance. C'est biblique. Faites attention, c'est pas. Il y a des fois des choses qu'on fait sous le prétexte de la chrétienté, mais c'est de la naïveté parfois. L'amour n'est pas naïf. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que l'amour est naïf. L'amour, c'est en fait, on peut faire n'importe quoi avec toi. Tu dois apprendre à te protéger. Tu ne dois pas non plus être quelqu'un comme un lion ou une lionne ou un tigre ou une tigresse. C'est-à-dire la moindre personne qui s'approche, tu fais comme ça, parce que là, tu n'auras aucune relation. Il y a des gens qui sont agressifs, vous savez, quand on commence à s'approcher d'eux. Ça, c'est pas bon. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas laisser n'importe qui venir envahir ta vie. Parfois, ça peut être très dangereux. Il y a parfois des gens qu'on laisse entrer dans nos vies et qui après nous créent tellement de désordre.
Et
on se dit, mais la première fois où on s'est vu, j'aurais mieux fait de prendre mon chemin. Et pourtant, je ressentais ces choses. Mais je me suis dit, oh, certainement, je manque d'amour. Oh, certainement, vraiment, c'est pas gentil ce que je fais là. Ouais, sauf que maintenant, t'es dans la galère. Pourquoi ? Parce que t'as ouvert toutes les portes et cette personne est venue et a envahi ta vie et crée du désordre dans ta vie. Donc vous savez, c'est pas un manque d'amour de savoir fermer une porte relationnelle dans laquelle vous vous dites « ça risque de mal tourner ».
Que
celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je vous garantis, parce que souvent on se fait avoir avec ça. Sous le prétexte d'un christianisme qu'on appelle à l'audro, c'est-à-dire tout le monde il est gentil, tout le monde il est bon. Non, il y a des très bonnes personnes, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi des personnes qui peuvent te pourrir la vie. Alors après, ce qui va se passer, c'est là encore le fruit de ce que nous avons vu quand Abraham se fortifie. Vous voyez, dans le chapitre 14, il n'y a rien, il n'y a aucune révélation divine. Il y a simplement Abraham qui va récupérer Lot, qui va donner la dîme de tout à Kedorlaomer. Bon, on voit des actes entre des hommes. Mais là, on ne voit pas Dieu qui se révèle à nouveau. Par contre, au chapitre 15, Dieu va se révéler.
Encore.
Et là, il y a plein de leçons intéressantes. Regardons ensemble. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même. Ton bouclier, ta récompense sera très grande. Donc Dieu va encore à nouveau venir vers lui. Rappelez-vous, une révélation, c'est Dieu qui vient vers nous. Abraham n'était pas en train de prier, chercher « Oh Dieu, révèle-toi à moi, pourquoi je suis là en train de tourner en rond ?» Entre la période où Abraham va quitter la maison de son père et la fin du chapitre 15, il va se passer environ 10 ans. Donc vous voyez, début du chapitre 12, quand Abraham quitte la maison de son père, tout le chapitre 12 que nous avons étudié, le chapitre 13 et le chapitre 14, et même le chapitre 15, il va se passer environ 10 ans dans tout ça. Ça, c'est pour vous montrer que les choses ne se sont pas passées en 3 minutes. Il ne faut pas que vous pensiez que les choses vont se passer en 3 minutes. Ça prend du temps. Ça prend du temps de marcher avec Dieu. Par contre, ça paye. Hébreux chapitre 10, verset 35, s'il vous plaît. Dans Hébreux 10, 35, la Bible nous dit « N'abandonnez pas dans votre assurance, votre foi, si vous préférez, à laquelle est attachée quoi ? Une grande rémunération. » Une grande rémunération. Rappelez-vous que une rémunération, c'est quoi ? Est-ce que c'est un cadeau ? Non, une rémunération, ce n'est pas un cadeau. Une rémunération, c'est tu fais un travail, tu as fait un certain nombre d'actions, d'œuvres, entre guillemets, un travail qu'on te demande de faire. Tu fais ce qu'on te dit de faire selon ton contrat. Et à la fin, tu es payé pour ça. Je vais vous dire une chose, votre foi a un salaire. Il y a un salaire pour votre foi. Abraham a obéi. Il a laissé la maison de son père. Il arrive dans un endroit qui est très peu sécurisé pour lui. Il n'est pas dans ses lieux de naissance, il n'est pas autour de sa famille, il est loin de tout. Mais il a obéi à Dieu. Le Seigneur se révèle à lui. Il fait ses erreurs, nous l'avons vu. Il se retrouve à être obligé de faire une bataille contre des rois, alors que donc de risquer beaucoup parce, à cause de son neveu. Mais il se fortifie. Et il marche avec Dieu. Et Dieu se révèle à nouveau à lui. Ta récompense sera très grande.
Wow,
d'un seul coup, Dieu le sait. C'est formidable quand Dieu commence à se révéler encore à nous. Vous êtes là, vous avez une première révélation, vous obéissez au premier niveau. Vous faites tout ce que vous pouvez de mieux. Et puis, à un moment particulier, Dieu à nouveau se révèle à vous. Et là, il va vous dire plus. Il va vous donner plus. Pourquoi ? Parce qu'il voit en vous un cœur disposé à recevoir plus. Et c'est pour ça, je vous rappelle, que Dieu ne nous révèle pas les détails de notre destinée au début. Parce que nous ne sommes pas prêts. Donc là, Dieu se révèle à lui. À nouveau, d'une façon merveilleuse. Et on va voir, là, il va se passer quelque chose qui est très intéressant dans la révélation. Vous savez, Dieu fonctionne comme ça dans nos destinées. Il y a des moments où Dieu va te dire de faire quelque chose. Tu le fais. Et ensuite, il va être silencieux. Ne panique pas. Continue à faire ce qu'il t'a demandé. Vous savez, le silence de Dieu signifie simplement, c'est bon, continue à faire ce que je t'ai demandé. Sois fidèle. Et ça sera la porte ouverte à la nouvelle révélation. Et là, Dieu lui dit, ta récompense sera très grande. Alors, là, il va y avoir un dialogue. Et il y a toujours, à un moment donné, quelque chose qui se passe dans une destinée. Ça va être un dialogue entre Dieu et toi. Au moment où Dieu t'a vu, a vu que tu étais obéissant, a vu que tu commences à être vraiment fidèle, a vu qu'il peut commencer à te faire confiance, alors là, le Seigneur va venir vers toi pour préciser ta destinée. Et là, souvent, tu vas faire ce que quasiment tous nous faisons. Dieu lui promet quelque chose d'extraordinaire encore. Une grande récompense. Mais Abraham réfléchit et dit, mais Seigneur, tu m'as promis qu'il y aura une grande postérité. Et Abraham lui dit, Seigneur, que me donneras-tu ? J'ai toutes les richesses que je veux. Il était très très riche. Mais il avait un problème. Vous savez, vous ne faites pas d'illusions. Là où vos défis se trouvent, c'est là où votre dimension est la plus petite. Abraham aurait pu acheter, je ne sais, un immense territoire s'il voulait avec son argent. Mais il ne pouvait pas acheter d'enfants. D'autres auraient pu avoir beaucoup d'enfants, mais ils n'auraient pas eu de maison pour vivre. Chacun, on peut avoir nos défis. C'est pas un problème, c'est justement là où Dieu peut se montrer. Dieu ne peut pas se montrer dans ta vie où tout va bien. Dieu va se montrer par rapport à une promesse qu'il t'a faite. Et derrière cette promesse, il y a un mot que tu vois. Impossible. Et c'est pour ça que Dieu va avoir besoin de ta foi pour que ça soit possible. Dans chaque promesse, il y a des défis. Dans chaque promesse, tu es dans une toute petite dimension par rapport à ce que Dieu t'a promis. C'est pourquoi il va falloir relever ce défi. Alors Abraham, là, il commence à dialoguer avec le Seigneur. On va voir plusieurs dialogues de plusieurs serviteurs de Dieu de la Bible, c'est marrant. Il est là, il dit, bon, bah, Seigneur, en fait, que tu vas me donner? Je vais sans enfant, je vais. Vous voyez, déjà, il se voyait mort. Abraham avait moins de 80 ans. Et il a vécu jusqu'à 175 ans. Il va vivre 90 ans de plus qu'au moment où il est en train de dire ça. Et il se voyait déjà, je m'en vais. Je vais bientôt partir de la terre. Là, on voit que sa foi était basse. Et vous savez, dans la foi, quand Dieu vous fait des promesses, il y a des moments où vous allez être testé de partout dans votre foi. Partout dans votre foi. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Ça veut dire, bon, comme je n'ai pas d'enfant, le responsable de mes serviteurs, c'est lui qui prendra la suite, ma succession. Dans les temps où notre foi est basse, on a toujours notre imagination qui fabrique un plan B. Le seul problème, c'est que le plan B, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais partout où vous avez des défis, frères et sœurs, votre tête cherche à fabriquer un plan B. Vous remarquerez toujours ça. Le Seigneur vous promet quelque chose et tu es là, il n'y a rien qui se passe. Donc qu'est-ce que tu vas faire au bout d'un moment? Le temps, parce que le temps peut être un des pires ennemis de la foi. Si tu ne sais pas l'utiliser. Par contre, si tu sais l'utiliser, ça va devenir le meilleur ami que tu n'auras jamais connu. Parce que c'est au travers du temps que tu vas grandir et que tu vas comprendre certaines choses que tu ne pourrais jamais comprendre avec la précipitation. Alors là, il fait son plan B. Oui, Seigneur, tu me promets des belles choses. Oh, gloire à toi. Bon, bah oui, effectivement, là, j'ai mon serviteur, c'est lui qui va tout prendre. C'est avec lui que tu vas faire les promesses. Abraham propose son plan. Il a réfléchi. Il s'est réuni avec sa femme un jour et tous ses serviteurs. Ils ont pris une grande feuille de papier et il a mis, voici le plan d'Abraham pour réaliser les plans de Dieu pour ma vie.
Et
il a présenté au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur va lui répondre. Verset 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de prospérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier, pardon, ce n'était pas la réponse. Verset 4, juste après. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Et là, Dieu va fermer la bouche d'Abraham. Souvent, Dieu va nous fermer la bouche. Et là, Dieu va lui parler directement.
En
disant, tu te trompes complètement. Rappelez-vous, mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu dans
Isaïe.
Mes plans ne sont pas vos plans, c'est ça que ça veut dire. Mais après, Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix. Vous ne pourrez jamais imaginer la façon dont Dieu va réaliser les choses. Ça, c'est le grand drame de beaucoup de gens qui échouent. La plupart des gens qui échouent, sont des gens à qui Dieu a parlé, mais qui ont eux-mêmes voulu et accompli les plans que Dieu voulait pour eux. Ça, c'est le meilleur moyen pour échouer. Tu veux faire les choses comme toi tu penses, apprends à dire à Dieu, Seigneur, je veux t'obéir et je n'ai pas la moindre idée comment tu vas réaliser ces choses. Mais je sais que tu es tout puissant pour le faire, que tu es puissant pour amener les bonnes personnes, que tu es puissant pour faire les miracles, que tu es puissant pour amener la provision. Le reste, Seigneur, je ne veux pas le savoir. C'est ton business, ce n'est pas mon business. Nous échouons souvent dans nos destinées quand nous voulons prendre la place de Dieu. C'est tellement classique de voir ça. Prendre la place de Dieu. Quand tu veux chercher à prendre la place de Dieu, plutôt que faire de la place à Dieu. Et ça, c'est le problème avec tellement de gens. Alors, on a le même exemple avec Moïse. Moïse, quand vous regardez Exode chapitre 3, on n'a pas trop le temps de tout lire dans Exode 3 et 4. Mais rappelez-vous de l'histoire de Moïse. Moïse a une immense destinée. À chaque fois qu'il voit son peuple, alors que lui, il est du côté des Égyptiens, mais à chaque fois qu'il voit son peuple souffrir sous l'esclavage des Égyptiens, sous la tutelle des Égyptiens, ça lui arrache le cœur. Et il a envie de réagir. Et un jour, il réagit. Dieu lui avait parlé sur sa destinée. Et d'un seul coup, il fonce. Et il tue l'Égyptien. Et il est obligé de fuir. Mais quand Dieu, 40 ans plus tard, 40 ans plus tard, vous savez, il y a parfois des gaffes qui nous coûtent des années. Moïse, il en a pris pour 40 ans. 40 ans. Il a fait cette erreur de vouloir accomplir le plan de Dieu par ses propres forces. Il n'a pas voulu laisser la place à Dieu. Alors qu'est-ce que, quand Dieu va se révéler à lui à nouveau au chapitre 3 et au chapitre 4, c'est l'histoire du buisson ardent. Au verset 10 du chapitre 3, Dieu lui dit, maintenant va, je t'envoie vers le Pharaon. 3:10, Exode, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites.
3:10.
Là, Moïse discute.
Moïse,
du chapitre 3 jusqu'à pratiquement la fin du chapitre
4,
vous allez voir Moïse discuter avec Dieu. Moïse va essayer de prouver par A plus B qu'il n'est pas la bonne personne. Alors que 40 ans plus tôt, il aurait été capable, par ses propres forces, il aurait voulu renverser tout le monde. Mais là, il essaye par tous les moyens de dire à Dieu, en fait, écoute Seigneur, moi je suis qu'un vieux bonhomme maintenant, à 80 ans. J'avais un vieux rêve, mais ça m'a coûté 40 ans de désert. Je ne veux même plus en entendre parler. Et puis d'abord, je parle mal, parce qu'en fait, littéralement, il va dire qu'il bégayait. Il se sentait incompétent. Il connaissait plus personne du peuple d'Israël, puisque pendant 40 ans, il avait été seul, enfin, seul dans une famille complètement différente. Il avait vécu 40 ans de gloire en Égypte à côté du Pharaon, mais après il avait vécu 40 ans à garder des brebis. Et Moïse va essayer absolument de convaincre Dieu qu'il n'est pas la bonne personne. Jusqu'à temps que Dieu se fâche. Voici, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu.
Etc.
Il va constamment, et Dieu va être obligé de le rassurer. Et au bout d'un moment, Dieu va lui dire quelque chose.
Et
il va lui dire, simplement, prends ce que tu as. Qu'est-ce que tu as dans la main ? Chapitre 4, verset 2. Un bâton. Un bâton. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et c'est ça qui est important. C'est quand Dieu te parle et qu'il te dit c'est le moment, tu pars et tu obéis à Dieu avec ce que tu as dans tes mains. Parce que beaucoup de gens, quand Dieu leur dit maintenant c'est le temps, vas-y, ils disent mais Seigneur, moi j'ai pas d'argent, je peux rien faire, Seigneur je suis pas connu, Seigneur personne n'a confiance en moi, etc. Et souvent il y a de l'argumentation comme ça.
Vous
voulez un autre exemple? Jérémie, le prophète Jérémie, la même chose. Au début du prophète Jérémie, on a chapitre 1, versets 6 et 7. On a plein d'exemples comme ça dans l'Écriture. Quand Dieu commence à parler à une personne, que c'est le temps, parce que la personne est vraiment prête. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a des moments dans votre destinée où Dieu va se révéler à nouveau parce qu'il a vu une certaine fidélité en vous. Mais il a vu une chose. Que vous avez perdu confiance en vous-même pour réaliser le plan de Dieu. En d'autres termes, tant que tu penses que tu es capable, Dieu dit, il n'est pas prêt. Le jour où tu te sens complètement inadéquate, en disant vraiment, je ne pourrais jamais faire ça. Je m'en sens incapable. C'est là où Dieu dit, lui il est prêt. Parce que Dieu ne peut remplir que des récipients qui sont vides d'eux-mêmes. Nous avons tellement de gens qui sont remplis d'eux-mêmes et qui veulent servir le Seigneur. Moi je sais mieux que tout le monde. Moi je sais quoi. Moi je ferai mieux que lui. Dieu dit ces gens-là, on ne peut pas les utiliser. Dieu ne peut pas utiliser des gens remplis d'eux-mêmes. Des gens qui comptent sur leur propre force. Jérémie, c'est la même chose. Il va dire à Dieu, Dieu l'envoie pour une mission. Et une mission qui n'était pas facile. On va lire un peu plus haut, parce que franchement, c'est une mission que je n'aurais pas aimé avoir. Dieu va lui dire que, en fait, il faut que je retrouve le verset. Il y a un moment où Dieu lui dit, en fait, qu'il l'envoie pour aller contre des personnes.
On peut retrouver ce verset.
Parce que c'est le verset 6 et le verset 7 qui m'intéressent sur ce qu'il va déclarer. Voilà, verset 10, regardez bien. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes. Ah, verset 10. Vous aimeriez bien que Dieu vous dise, je t'établis contre quelqu'un? Ça signifie que ça
ne
va pas être facile. Jérémie va discuter, versets 6 et 7. Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. L'Éternel lui dit, ne dis pas je suis un enfant, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai.
Ngo ntacuvuga ngo ndacari muto kuko uwo nzogutuma ko wese ari buzoja ko kandi ico nzokubarira cyose akaba ari cyo ukwiye kuvuga.
Jérémie était très jeune quand Dieu va loindre.
Yari muto cyane igihe Imana yamusiga amavuta.
Mais il se sentait complètement inadéquat.
Ariko yumva umenga ntashoboye ntakwijije.
Je dis vraiment je n'ai pas les capacités.
Ati nta buryo nta nguvu ndabifitiye.
Quand tu te sens capable de quelque chose,
vis-à-vis
de ce que le Seigneur te demande de faire, je vais te dire une chose. Le résultat, ce sera catastrophique. Et tellement de gens le font. Par exemple, des fois, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et ils sont un peu frustrés parce qu'ils ne prêchent pas ou ils ne font pas des choses, par exemple, dans l'église. Ils n'ont pas de grande responsabilité spirituelle. Alors ils disent, qu'est-ce que je vais faire? Et ils commencent à vouloir faire des œuvres. Essayer de réaliser des choses. Certains se mettent même dans le ministère. Par exemple, il y a des gens qui démarrent des églises parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils disent, après tout, moi je peux louer un bel endroit. Je peux acheter beaucoup d'instruments. Je peux acheter des chaises. En fait, je peux tout acheter pour faire une église. Sauf que le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas l'onction pour le faire. Alors d'un seul coup, ils demandent à quelqu'un de venir pour être le pasteur. Et le businessman commande le pasteur. Ça a toujours fait des dégâts, ce genre de relation.
Vous
voyez, parce qu'il y a une frustration quelque part de la part du businessman
qui veut
avoir des diriger l'église.
Il
y a par exemple des gens qui sont comme ça. D'autres par exemple qui prêchent bien, qui sont jeunes et qui prêchent très bien. Et alors ils font tout pour imiter T.D.
Jakes.
Leur meilleur prédicateur.
Ils s'arrangent
les mêmes costumes, les mêmes façons de parler.
Et alors, ils
commencent à amener quelques âmes au Seigneur.
Et ils se
sentent tellement capables de devenir des grands serviteurs de Dieu
que
finalement, ils ruinent tout. Quelques années plus tard, ils sont tellement remplis d'eux-mêmes qu'ils font naufrage. Non. Apprends à te confier dans le Seigneur. C'est au travers de lui. Tu n'imagines même pas comment Dieu peut réaliser les choses. Moi, je vous dis, j'ai fini de me battre avec Dieu avec ces histoires-là. Ça a été dur à sortir de moi, mais j'ai compris. Ah, c'est des choses qui, des fois, sont... Vous savez, parfois, il y a des choses qui sont tellement ancrées en nous qu'elles sont là en nous. Et pour que ça sorte,
vous
voyez par exemple Moïse, pour que Moïse abandonne ses façons de faire pour délivrer le peuple de Dieu. Mais c'est incroyable ce qu'il a. Il a dû subir 40 ans dans le désert. Vous savez, parfois il y a des choses, des erreurs qu'on fait qui sont vraiment des erreurs majeures par rapport au royaume de Dieu.
Il
y a des gens qui ne s'en remettent jamais et qui, franchement, ils terminent leur vie, ils n'ont jamais rien fait pour le Seigneur. Mais il y en a d'autres, des années plus tard, ils se relèvent. Et ils ont compris la leçon. La seule chose que tu ne récupéreras jamais, c'est les années perdues. Mais des fois, il vaut mieux perdre un certain nombre d'années et être vraiment prêt, être vide de soi-même et rempli de ce que Dieu veut faire au travers de nous et réussir. Mettre à disposition ce que nous avons au moment où Dieu nous dit maintenant c'est le temps. C'est là où Dieu fera les plus grandes choses. On a cet exemple aussi dans Marc 6. Marc 6 au verset 37. Les disciples étaient en train d'apprendre. la vie par la foi et les défis à relever. Cette histoire, c'est la première multiplication des pains et des poissons. Au verset 34, il est dit: quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et eut compassion parce qu'elles étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et se mit à les enseigner longuement. Comme l'heure était déjà avancée, et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: ce lieu est désert et l'heure est avancée. Ils ne sont pas approchés d'eux, ils ne sont pas approchés de Jésus en leur disant: quel Fanta est-ce que tu veux boire, Jésus?
Ngo avuye mu bwato abona ishengero ryinshi rimutera akagongwe, kuko bameze nk'intama zitagira umwungere. Atangura kubigisha byinshi. Umunsi ukuze, abigishwa biwe baramwegera bati: mbega hano hantu ko ari mu gahinga, umunsi ukaba ukuze.
Verset 36, la suggestion des disciples était: renvoie-les et dépêche-toi, Seigneur, sinon on va avoir un gros problème sur le dos, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Honnêtement, s'il y avait une grande foule, la nuit arrive, et on commencerait tous à réfléchir en se disant: bon, la nuit arrive, il y a un grand problème qui arrive avec la nuit. Je pense que tous on aurait réagi comme les disciples, non? Qui aurait réagi comme les disciples? Regarde à ton voisin, il ne lève pas la main, dis-lui: ouh, super spirituel. C'est clair, on aurait tous réagi comme les disciples. Parce qu'imaginez-vous, vous avez une foule de 10 000 personnes devant vous. Et où est-ce qu'ils vont dormir, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils vont manger, on ne sait pas. Ça faisait apparemment plusieurs jours qu'ils n'avaient pas mangé grand-chose. Mais ils avaient soif de Dieu. Et là, Jésus leur dit quelque chose. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Donc, il les met au défi. Ils sont en pleine volonté de Dieu. Ils sont exactement en train de faire ce que le Seigneur leur a dit de faire. Maintenant, ils se retrouvent devant un défi. Parce que quand tu accomplis la volonté de Dieu, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a toujours de grands défis. Et là, ni plus ni moins, le défi, c'était de pouvoir trouver de quoi faire manger ces personnes. Mais il y avait déjà quelque chose à disposition. Lorsque Dieu vraiment te dit c'est le temps, il t'envoie quelque part, il te dit voilà, c'est ça que je veux que tu fasses maintenant, aujourd'hui. Tout le reste, c'est plus ton problème. Quand tu apprends à marcher avec Dieu, tu dis: ok, je vais le faire. Et si tu as cette attitude, Dieu va te rencontrer dans ta foi. Le problème souvent, c'est qu'on discute avec Dieu. Et on dit: non, c'est pas possible. Dieu m'a demandé de faire ça, mais j'ai pas les moyens. Je peux pas le faire. Et là, tu t'arrêtes. Et c'est là où tu fais une grave erreur. Non, fais avec ce que tu as. Maintenant, rappelez-vous d'une chose. Il faut vraiment être dans ce que le Seigneur nous demande. Quand le Seigneur te dit: maintenant c'est le temps, tu dois le faire, mets ce que tu as à disposition. Donnez-leur vous-même à manger, les disciples ont raisonné. Ils ont dit: mais tout ce qu'on a là, si on réunissait tout notre argent, etc., où irons-nous acheter les pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Et Jésus va leur demander ce qu'ils avaient, combien de pain et poissons. Ils vont mettre ça à disposition. Et quand tu mets ce que tu as à disposition du Seigneur, c'est là où il va faire des miracles. C'est là où il va faire des miracles. Mais ce qu'il faut, vraiment un cœur obéissant, frères et sœurs.
Vous
savez, souvent c'est ce qui nous manque. On a tellement d'illusions sur les façons dont on voudrait voir Dieu faire les choses. C'est pas ton problème. La façon dont Dieu fera les choses, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Laisse Dieu être Dieu dans ces choses. Laisse-le faire ce qu'il veut faire. Donc, on revient à l'histoire d'Abraham. Et c'est clair que Dieu lui dit maintenant, c'est au travers de tes entrailles que les choses vont se faire. Ok, c'est par toi, c'est au travers de tes entrailles. C'est lui qui va être l'héritier, c'est à partir de lui que les promesses vont se réaliser. Au verset 5, la Bible nous dit qu'il le mena dehors. Dieu mena dehors et dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance.
Hanze aramubwira ati rangamiza urabe mwijuru uharuri nyenyeri namba wo shobora kuziharura urubyaro rwawe niko ruzongana.
Alors si vous comparez ce verset au chapitre 13 et au verset 16,
uravye 13 murongo wa 16 itanguriro,
c'est la deuxième fois que Dieu lui parle d'un nombre.
Nu ubwa kabiri ubona Imana imubwiye kugiharura.
D'un nombre qui tend vers l'infini.
Igiharuro kishaka gusa nawe kitagira iherezo.
Mais au chapitre 13 et au verset 16, ce que nous avions déjà lu, Dieu lui dit, ta descendance sera comme la poussière de la terre. Ou comme le sable, oui, effectivement, dans d'autres traductions. Après, nous voyons bien qu'au chapitre 15, verset 5, il lui dit, maintenant, lève tes yeux vers le ciel. Et compte les étoiles. Il y a quelqu'un qui, quand il était enfant, maintenant vous ne faites plus ça, mais vous regardez le ciel étoilé, puis vous comptez les étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 million et demi, 1
250 000, 1 250 000.
Là, il y a une image ici que Abraham ne comprenait pas encore du tout. Même dans l'Ancien Testament, on n'avait pas compris ça.
Il n'y
a que nous, l'Église de Dieu, qui peut comprendre ce que Dieu a voulu dire au travers de ces deux, je dirais, deux choses physiques, deux images sur la postérité d'Abraham. La première, il lui dit, compte les grains de sable. C'est clair que si vous comptez les grains de sable, c'est très difficile. Vous pourrez passer toute votre vie à compter les grains de sable, vous n'aurez jamais compté tous les grains de sable de la terre. Mais là, il va lui parler de sa postérité physique. De la terre. Et là, Dieu était en train de lui prophétiser dans le premier passage au chapitre 13, au verset 16, la postérité physique d'Abraham, c'est quoi? Israël. Mais il y en aura une autre qui va naître, qui n'était pas la promesse du départ. Et nous verrons d'ailleurs qu'au travers de ça, Abraham va limiter ses promesses. Mais l'idée de la poussière de la terre, du sable, c'était qu'au travers d'Abraham, il allait y avoir des peuples physiques. Maintenant, Dieu, au chapitre que nous sommes en train d'étudier, au chapitre 16, au verset 5, il lui dit, regarde les étoiles. Et là, Dieu était en train de lui prophétiser quoi? La postérité céleste. La postérité céleste, c'est vous et moi, c'est l'Église. Abraham, au travers de ses promesses, avait une double postérité. La postérité de la promesse sur le territoire d'où il était, qu'il a limité à cause de sa désobéissance, nous le verrons. Et la postérité céleste, c'est l'Église de Dieu. Et c'est grâce à la foi d'Abraham que nous sommes en Christ aujourd'hui. Donc
vous
voyez, il y a ces deux postérités que Dieu lui avait promises. Bien sûr, pour Abraham, ça ne voulait pas dire grand-chose. Nous pouvons l'interpréter, mais lui ne pouvait pas l'interpréter. Parce que le Messie viendrait de la postérité terrestre pour engendrer la postérité céleste.
gutanguza urubyaro rw'ijuru.
Et ça Abraham pouvait pas le comprendre. Nous, je vous dis, on peut le comprendre parce qu'on a du recul vis-à-vis de l'histoire.
Ibi Abraham ntiyashobora kubitahura kuko ico gihe ntavyo yatahura twende ico cyoshora kuraba kahise tukashobora kuvyumva.
Alors verset 6, c'est un verset qui est très célèbre et qui est repris par à plusieurs reprises dans la Bible. Dans le Nouveau Testament.
Uzwi cyane ukoze gusubirwamo cyane mu isezerano.
Quand Dieu va lui faire ses promesses. Il va, la Bible nous dit que Abraham crut en l'Éternel, qui lui imputa à justice. C'est un terme qui est repris particulièrement dans Romains chapitre 4, qui va être aussi repris dans Galates chapitre 3, je crois, ou 2, et dans Jacques chapitre 2. Trois fois dans le Nouveau Testament, ça va être repris. Pour nous parler de la foi d'Abraham. Nous étudierons la foi d'Abraham dans les prochaines leçons. Mais là, ce que j'aimerais d'abord, c'est voir un petit peu ce que Dieu va lui promettre par la suite. Alors, On va d'abord tracer un peu le chapitre et après on reviendra avec les leçons suivantes. Donc Dieu lui parle de sa postérité céleste. Abraham croit. La foi va déclencher le reste de la révélation. Il lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir, verset 7, d'Ur en Chaldée, pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Éternel, Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrais-je? Vous voyez, donc Dieu lui fait des promesses, mais Abraham lui dit, ok, tu dis que tu me fais ces promesses, mais moi je veux quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe, je veux une assurance que ces promesses sont vraies.
Muri uri ibukarudaya kugira ngo nze nguhe iki gihugu ucegukire aramubaza Abraham aramubaza ati mwamuhoraho icomenyesha yuko zocegukira niki.
Et nous verrons que très souvent quand Dieu nous fait des promesses spécifiques,
tuzobona ingene kenshi Imana iduhaye amasezerano,
Dieu va approuver ce que nous avons reçu.
Usanga Imana ikwemeza yuko byukuri yaguhaye.
Là Dieu va lui demander quelque chose de l'Ancien Testament, un sacrifice. Nous en parlerons dans la prochaine leçon. Mais on voit que Abraham, ce qu'il veut, c'est avoir une assurance. Seigneur, tu me promets ça, ok. Mais on veut vraiment voir aussi, je veux qu'il y ait quelque chose, une manifestation de ta part puissante, un miracle. Et c'est exactement ce qui va se passer. Dieu va approuver en envoyant son feu sur le sacrifice, on verra. Mais là, je veux juste aller un peu plus loin sur l'aspect de la promesse, que Dieu va lui dire. On va lire verset 13 jusqu'au verset
15.
Parce que c'est très intéressant dans les promesses de Dieu et c'est quelque chose que vous devez toujours comprendre et voir.
Vous
voyez, quand Dieu nous fait des promesses, Dieu ne va jamais te dire, voilà, tu vas accomplir telle et telle chose pour moi. Tu vas voir, tu vas faire ça, tu deviendras ça et ça. Ça, ce sont des promesses flatteuses. Dieu, toujours quand il nous fait des promesses, nous dit le côté qu'il veut réaliser au travers de nous, mais il va te montrer le prix à payer. C'est pour ça que quand vous entendez des prophéties, ou que c'est vraiment le Seigneur qui vous parle, le Seigneur va vous dire, je veux faire ça, ça et ça. Mais écoutez le reste. Une vraie prophétie est toujours accompagnée du prix pour réaliser la vision. Parce qu'il n'y a rien qui peut naître de divin sur la terre sans qu'il y ait des souffrances de l'enfantement. Écoutez bien ce que je vous dis ici, parce que c'est des choses souvent qu'on n'entend plus prêcher. On dit voilà, tu vas être béni. Bon, ok, d'accord. Et les gens mettent les yeux sur la bénédiction parce qu'ils veulent, avoir beaucoup d'argent, être prospère, être ceci, être cela. Être des gens respectés parce que ce sont devenus des grandes personnes. Ça, c'est du gros baratin flatteur, je tiens à vous le dire. Et soyons clairs, parce que c'est un courant qui est dans l'Église de plus en plus. Il
n'y
a pas de grande vision sans souffrance. Amen. Il
n'y
a pas de grande vision sans souffrance. Jésus a réalisé la plus grande vision que Dieu avait du ciel. Mais la croix a été le prix à payer. Chaque personne qui a une grande vision à réaliser, écoutez bien, devra payer un prix en proportion de la grandeur de la vision. La souffrance est scripturaire, frères et sœurs. Il y a trop de gens qui pensent que tout se passera comme ça. Dieu lui dit, je vais faire de toi une grande nation, etc. Mais verset 13, il le prévient aussi. L'Éternel dit à Abraham, verset 13, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans.
Ruzoba inyambukira mu gihugu kitari cyabo kandi bazokorera bene cyo nabo bazobagirira nabi imyaka amajana ne.
Mais Dieu dit une chose, je jugerai la nation, c'était l'Égypte, vous avez bien compris. Et là il y avait une prophétie sur la captivité des Israélites dont ils auront été esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens.
Ngomaze iryo hanga bazokorera nzoricira kwiteka ariko amaherezo bazorivamwo bakuye y'ubutunzi bwinshi.
Donc c'est clair, souvent Dieu vous dira une chose, mais il vous dira aussi le prix qu'il y aura à payer. Aucune grande vision ne se réalise sans souffrance. Sans prix à payer. Si vous voulez aller loin, si vous rêvez grand, il y aura un grand prix à payer. Il faudra que vous soyez prêts à le payer. Et c'est là où très souvent, frères et sœurs, les gens renoncent et ils abandonnent avant d'avoir accompli quoi que ce soit. Parce qu'ils se retrouvent dans des difficultés, dans des choses qui semblent être insurmontables. Et ils n'ont plus de foi. Ils ne sont pas courageux. Ils ne sont pas persévérants. Et c'est dommage, parce que des années plus tard, ils sont complètement refroidis pour le Seigneur. Et ça, c'est bien dommage. Il y a des temps difficiles. Partout, vous le verrez dans la Bible. Il n'y a pas de naissance sans souffrance. Mesdames, quand vous savez que le 9e mois arrive à terme, est-ce que vous êtes là en train de dire ah, « Alléluia, gloire à Dieu, je vais souffrir !» Non, je pense que si on prenait toutes les dames ici qui ont eu des enfants, on vous dira « Tu sais, le jour de l'accouchement... » C'était pas le meilleur jour de ma vie. Par contre, la récompense du bébé dans les mains, là, c'était le meilleur jour de leur vie. Messieurs, je sais, nous n'expérimenterons jamais ces choses. C'est pas grave, nous avons des images dans la Bible et nous avons des exemples devant nous. Mais sachez une chose, il n'y a pas de naissance sans souffrance. Et à combien plus forte raison, il n'y a pas de naissance dans le monde de l'esprit. Sans qu'il y ait des temps difficiles. Et là, on voit Dieu le prévenir. La vraie prophétie est toujours accompagnée d'avertissements divins. Quand Dieu te dit que tu vas faire ça et ça pour lui, obligatoirement, il va en même temps dire les choses par lesquelles tu vas passer. Pourquoi ? Parce que le jour où tu seras dans le feu des difficultés, tu te souviendras toujours et tu diras, oui, le Seigneur m'avait prévenu. C'est pourquoi je tiens bon et je sais que au travers de ça, je vais percer et voir réellement la gloire de Dieu. C'est toujours ce qui nous donne un immense encouragement dans les moments les plus difficiles. Mais faisons bien attention, frères et sœurs. Il n'y a pas de prophétique sur un lit de rose.
Na buvugishwa bukwereka ko byose ari amashugo.
La réelle, je dirais le vrai prophétique.
Ikiro kivuzwe
de la destinée.
Kubizoba mu buzima bwawe.
Passe par des souffrances. Et Dieu avait prévenu Abraham. Ils seront esclaves 400 ans. Et je jugerai la nation. Et Dieu a jugé l'Égypte. Et ils sont sortis avec de grandes richesses. Il y a beaucoup de choses dans la vie d'Abraham. Ce sont des grandes leçons pour notre vie spirituelle. Et je vous assure, il y a beaucoup de principes divins ici. On va clôturer aujourd'hui par Colossiens 1:9 parce que je veux que ça rentre en vous. Si ce verset pouvait rentrer en vous, frères et sœurs, ça vous épargnerait bien, bien des gros problèmes dans ce que le Seigneur vous demande de faire. Si chacun d'entre nous en était vraiment à notre place à faire exactement ce que le Seigneur nous demande de faire, ça serait des explosions spirituelles partout. Mais souvent, nous nous retrouvons dans ce problème qui est mentionné ici. Je vous rappelle que Paul prie, et je veux que vous connaissiez bien cette prière, et que demandez que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Cherche la volonté de Dieu pour ta vie, mais acquiert l'intelligence divine sur les principes, comment Dieu veut réaliser ces choses. Les grands secrets, entre autres, sont dans la vie d'Abraham. Il y a plein de choses qui sont des leçons pour nous, pour accomplir notre destinée. Que Dieu vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.